Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Ce jour, nous avons la joie et le privilège d'accueillir à nouveau dans notre studio de FM Évangile 66 le pasteur Paul Calzada. Sois le bienvenu, Paul, sur cette antenne.
Merci à FM Évangile 66 de m'avoir à nouveau ouvert son antenne. Je souhaite également à toutes les auditrices et à tous les auditeurs que la grâce et la paix du Seigneur abondent dans chacune de vos vies.
Nous avons bénéficié, lors de la précédente visite, d'une interview qui a été très appréciée, d'une part pour la qualité du témoignage rendu, et d'autre part pour la richesse de l'enseignement qui en est résulté, comme en ont témoigné les nombreux échos venus de divers départements de l'Hexagone, de Belgique et aussi de Genève. Merci au Seigneur pour cela. Merci aussi pour la capacité technique dont dispose FM Évangile 66 grâce au web. Je précise donc ceci. Bien-aimés, vous avez maintenant la possibilité de retrouver sur le site de la radio le texte de cette interview, voire son écoute en différé. Bien-aimés, faites-le savoir autour de vous. Avec Paul Calzada, nous nous connaissons depuis plus de 60 ans. Certes, cela ne nous rajeunit pas, mais souligne la grande expérience dont va nous faire bénéficier notre ami au cours de l'entretien que nous vous présentons ce jour. À l'attention de ceux qui n'étaient pas à l'écoute lors de ton interview, Paul, peux-tu nous faire comme un résumé de ton parcours ?
Bien sûr. C'est à l'âge de 15 ans que j'ai décidé de croire personnellement à Christ. À 21 ans, pour remplir mes obligations militaires, je me suis engagé comme volontaire du service national en qualité d'enseignant au collège protestant de Ouagadougou, qui, un an plus tard, deviendra un lycée. Bien d'autres jeunes se rendront utiles par ce moyen, dont mon ami Elios Mikkel qui m'accueille en ce jour sur cette antenne. Je voudrais citer entre autres Jean-Yves Carluère, dont le fils est le pasteur principal de l'église Martin Luther King à Créteil. Je citerai aussi Jacques Bellagamba, qui, avec son épouse, ont dirigé pendant des décennies le collège de jeunes filles de Lumbila au Burkina Faso. De nombreux autres, qui me pardonneront de ne pas citer leur nom, ont par la suite exercé un ministère pastoral en France, en Suisse et en Belgique. Le pasteur missionnaire Pierre Dupré, maintenant entré dans la gloire, fondateur de ces établissements scolaires au Burkina Faso, fut un modèle de foi et d'encouragement pour chacun de nous.
Pour ce qui est dit du pasteur Pierre Dupré, je confirme, un modèle de foi ayant expérimenté des choses glorieuses dans un contexte de grande pauvreté.
Après 6 années, passées en Afrique, riche d'expérience, à 27 ans, nous avons entamé une nouvelle étape en entrant dans un service pré-pastoral en cette belle ville de Perpignan, servant aux côtés de Marcel Le Filâtre pendant 6 belles années. Aussi, j'apprécie particulièrement de me retrouver, plus de 40 ans après, dans les murs de cette radio qui poursuit ce magnifique travail de répandre la bonne nouvelle de l'Évangile, non seulement dans les Pyrénées-Orientales, mais dans le monde entier grâce au développement d'Internet. À 33 ans, j'ai entamé un parcours pastoral dans le sud-ouest de la France. Agen, Pau, Mourenx, Villeneuve-d'Ornon, Marmande. À ce ministère pastoral s'est ajoutée une implication toujours plus importante au sein de l'œuvre missionnaire des Assemblées de Dieu de France de 1976 à 2004. Ce furent des années où la croissance du travail missionnaire fut remarquable par la grâce de Dieu. À 62 ans, ayant fait valoir mes droits à la pension de retraite, nous sommes venus nous installer près de Lézignan-Corbières, où nous avons servi en collaboration jusqu'en l'été 2015 avec le pasteur Guillaume Anjou, fondateur du site Info Chrétienne, site internet qui connaît une croissance exponentielle. C'est lui qui m'a encouragé depuis maintenant 6 ans à écrire des pensées quotidiennes diffusées sur le site Lueur du Matin. Et pour les abonnés à Facebook, il est possible aussi de trouver ces pensées en allant à la page Facebook de Lueur du Matin. Les coordonnées seront sur le site de la radio. Je suis émerveillé de voir la croissance du nombre d'abonnés à la pensée du jour. À ce jour, plus de 3000 personnes nous suivent, soit sur Facebook, soit directement sur le site. Avec mon épouse, nous rendons grâces à Dieu pour ce service qu'il nous permet d'accomplir. À Dieu soit toute la gloire. Parallèlement à ce travail de diffusion sur le net, les pensées sont compilées, en divers ouvrages édités aux éditions Viens et Vois. Aux éditions Esdras.
En fait, sauf mauvaise compréhension de ma part, ta vocation de prédicateur se décline en plusieurs facettes. Enseignant conférencier auprès des églises locales qui t'invitent,
j'attache une importance toute particulière à visiter, en priorité, les communautés de petite taille qui n'ont pas toujours les ressources nécessaires pour inviter des prédicateurs. Avec mon épouse, nous sommes heureux d'offrir à ces églises notre service sans aucune contrepartie financière pour notre déplacement et ministère. C'est pour nous un sujet de grande joie. Et nous sommes émerveillés de voir comment Dieu pourvoit.
Paul, peux-tu nous en dire un peu plus ? Avec nos auditeurs, je suis désireux de savoir comment Dieu a pourvu pour te permettre d'offrir gracieusement l'exercice de ton ministère au service des églises et des croyants de toute dénomination. Je précise, désireux de savoir, pour être, comme tu l'as dit, je cite, émerveillé avec ton épouse de voir comment Dieu pourvoit.
Je vais juste citer l'exemple le plus récent. L'avant-dernier week-end du mois de mai, nous nous sommes rendus dans une assemblée du centre de la France aux moyens financiers restreints. Malgré cela, cette assemblée a voulu, et malgré aussi notre proposition de venir gracieusement, elle a voulu prendre en charge nos frais de gasoil et elle a généreusement offert un don pour cela. Au retour, nous avons dû effectuer une réparation sur notre voiture, une vénérable dame ayant près de 300 000 km au compteur. Et dans la semaine, nous avons reçu un don de nos abonnés à la pensée du jour, qui couvrait cette réparation. Dieu est fidèle.
Merci Paul pour ces précisions. Donc, ta vocation de prédicateur se manifeste comme pasteur enseignant, comme cela vient d'être dit, mais encore comme auteur, avec plusieurs publications, je précise, papier, pour distinguer ton travail, disons ton talent de rédaction, disponible sur le web. Et auprès de nous, tu deviens aussi homme de radio. Plaise au Seigneur que d'autres portes s'ouvrent encore devant toi. Je pense logiquement à la télévision. Question. Y a-t-il de la part des églises locales qui t'invitent une demande? Te sollicite-t-elle pour des thèmes précis?
Oui, bien sûr. Les thèmes abordés sont en relation soit avec les divers écrits réalisés ou en voie de réalisation, soit en relation avec les besoins des églises. Dernièrement, nous avons eu un camp familial en Belgique où le thème abordé a été « Le monde de nos pensées ». Voici quelques autres sujets abordés récemment. Le baptême du Saint-Esprit, la famille chrétienne, être chrétien aujourd'hui, la croissance spirituelle selon l'Épître aux Hébreux. Prochainement, dans les jours qui viennent, nous serons en Alsace, au Tabor, pour un séminaire sur la guérison intérieure. Au mois d'août, nous participerons à un camp d'ados en Bretagne. Divers messages sur le thème des animaux ou des pierres de la Bible sont une source d'encouragement pour les croyants.
Le monde de nos pensées, voilà un thème qui n'est pas souvent abordé. Le psalmiste confesse avoir connu de l'inquiétude, secoué par une multitude de pensées envahissantes. Je le cite, psaume 94, verset 19. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Paul, peux-tu nous faire bénéficier de l'enseignement que tu as partagé avec ses frères dans la foi en Belgique?
Parmi les divers points abordés, je partagerai celui-ci dont le titre est « Orienter ses pensées ». Ce partage est basé sur un texte de Jérémie. Il écrit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 19 à 23. Ainsi cet homme nous indique qu'il choisit, à un moment donné, de réorienter ses pensées. Il se rend compte que lorsque ses pensées sont tournées vers les aspects négatifs de son existence, vers ses drames, ses échecs, ses déceptions, il est abattu et découragé. Alors, il décide de penser autrement, de penser à la bonté de Dieu, à sa fidélité, à sa compassion. Et il voit que le découragement s'enfuit. Retenons le verbe qu'il emploie. Je veux. Il décide d'imposer à ses pensées une orientation nouvelle. Ce texte nous indique que nous avons le pouvoir, si nous le voulons, d'orienter nos pensées dans un sens ou dans un autre. De nombreuses pensées peuvent nous traverser l'esprit. Mais nous pouvons choisir de les chasser ou de les entretenir. Comme cela a été dit, nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voltiger au-dessus de nos têtes, mais nous pouvons les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux, quand il nous en reste. Jérémie a décidé d'orienter ses pensées vers la bonté de Dieu et de chasser de son esprit les pensées négatives dues à sa souffrance. Il nous incombe de faire de même. Si vous avez reçu une mauvaise nouvelle, si des propos méchants vous ont blessé, refusez de conserver vos pensées orientées vers ces choses et décidez de les tourner vers l'amour et la fidélité de Dieu.
Si je comprends bien, c'est tout à fait différent de la méthode Coué, qui est une sorte d'auto-persuasion consistant à répéter « Il ne fait pas froid, il ne fait pas froid », alors que le thermomètre affiche moins 10 degrés. Réorienter ses pensées autrement, en regardant vers Dieu, n'est-ce pas ?
En effet. Par exemple, alors qu'Asaf pensait à la prospérité des méchants et à ses propres déceptions, il allait sombrer dans la révolte et l'aigreur. Mais il a décidé de confesser la bonté et la fidélité de Dieu. Et sa vision des choses fut changée. Nous retrouvons cela dans le psaume 73. Nous ne pouvons pas changer les circonstances, mais nous pouvons orienter nos pensées vers celui qui est le maître des circonstances et repasser dans nos cœurs sa fidélité et sa miséricorde. Bien-aimé, la décision de caresser telle ou telle pensée vous appartient. Comme Jérémie, faites le bon choix. Décidez de ne plus penser au poison, à l'absinthe, aux blessures, mais de penser à la bonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ mort pour vous. Et, à l'occasion, faites-nous part de ce qui aura changé dans votre cœur, de ce que le Seigneur vous aura fait expérimenter.
Paul, j'ai une petite question, mais auparavant, nous écoutons une page musicale.
Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon.
Oh, 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 oh,
donne à mon cœur le rythme de ta joie.
Ô Seigneur, avec moi.
Donne à ma joie le rythme de ton cœur.
Ô Seigneur. Ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon.
Donne à ma chanson le rythme de ta vie,
ô Seigneur mon ami.
Donne à ma vie le rythme des chansons.
Nous poursuivons notre entretien avec le pasteur Paul Calzada. Paul, tu nous as encouragés à penser à la bonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Alors, voici ma petite question. Si tous orientent leurs pensées vers la même source, pourquoi constate-t-on des divergences de pensée chez ceux qui, tous, se réclament de la foi en Dieu ?
Merci pour cette question, qui n'est pas si petite qu'il y paraît. Pour ma part, je la qualifierais même d'importante. Bien que nous soyons exhortés à avoir une même pensée, comme cela est souligné dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2 et au verset 2, ou encore au chapitre 3 et au verset 15, nous constatons que cet objectif n'est pas atteint. Nos pensées divergent. Pourquoi ? Voici quelques éléments de réponse. Concernant nos pensées, l'apôtre Paul écrit « Lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Première épître de Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Ici, l'apôtre introduit une notion très importante. Il souligne que notre vécu, notre parcours personnel, notre expérience ou notre inexpérience influence notre manière de penser. Comme nous n'avons pas tous le même vécu, comme nous ne sommes pas passés par les mêmes expériences, chacun a développé son propre système de pensée. Dans ce texte, l'apôtre ajoute un autre point capital, qui est celui de la maturité. L'homme adulte, l'homme fait, comme il le dit par ailleurs, ne pense pas comme celui qui est encore dans l'enfance. Dans notre compréhension des choses spirituelles, nous n'avons pas tous la même maturité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux se lamente de voir que ceux qui devraient en être à une nourriture solide en sont encore au petit lait. Voici ce qu'il écrit, et je le cite, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Quiconque, en est au lait, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Hébreux, chapitre 5, versets 12 et 13. Celui qui est un enfant ne pourra pas penser comme celui qui est adulte. Dans toutes les communautés, il y a cette grande diversité d'hommes et de femmes ayant eu des parcours très différents. Il y a de nouveaux croyants et d'anciens fidèles. Tout ceci fait qu'il est difficile d'en arriver à une même pensée. Voilà pourquoi nos pensées divergent. L'objectif est de développer un enseignement qui responsabilise et fasse croître chaque croyant dans sa relation avec Dieu. Les enseignements qui infantilisent, qui ne font que répéter « il y a qu'à » ou « il n'y a pas qu'à », « fais ceci », « fais pas ça », n'aideront pas à la croissance spirituelle des fidèles, malheureusement.
Donc, l'idée que nous devrions arriver à avoir une même pensée, comme le suggère l'apôtre Paul, ne serait qu'une utopie.
Qu'il y ait des pensées divergentes, c'est inévitable. Et je dirais que c'est même nécessaire. Si chacun admet que l'autre puisse penser différemment, n'est-ce pas déjà avoir une même pensée ?
En effet. Et je n'y avais pas pensé.
La divergence de pensée nous invite à la patience, à l'ouverture d'esprit, à l'amour qui espère, au support mutuel, à l'humilité. Car, où que nous soyons, au niveau de notre maturité spirituelle, nous avons encore des progrès à faire, chacun pour notre part. admettons que nous pouvons encore progresser. Là où il y a risque, c'est lorsque les fidèles n'arrivent plus à penser par eux-mêmes et se soumettent, sans une saine réflexion, aux directives d'un leader qui impose ses propres idées sans se prêter au dialogue. Alors que l'apôtre Paul souligne cette nécessaire unité liée à la maturité dans son épître aux Philippiens, il dit « Nous tous donc qui sommes des hommes faits, entre parenthèses donc des adultes, ayons cette même pensée. » Philippiens chapitre 3, verset 15. Ayant dit cela, il modère ce besoin d'avoir une même pensée par ces mots qui suivent. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Au fond, ce que souhaite l'apôtre, c'est que le groupe arrive à une même pensée, non parce que cette pensée lui est imposée, telle la pensée unique, mais parce que chacun, ayant bien pensé par lui-même, en arrive librement à la même conclusion. Pouvez-vous librement vous poser cette série de questions? Les pensées qui me sont proposées me semblent-elles conformes à mes convictions spirituelles? Surtout, sont-elles conformes aux fondements de l'Écriture auxquels je crois? Respectent-elles les règles du bon sens et de la bienséance? Me demande-t-on d'adhérer sans comprendre? Puis-je poser des questions? Lorsque le consensus découle d'un débat libre et ouvert, lorsque je puis penser par moi-même et émettre une voix différente, là où réside ce savant équilibre entre unité et liberté, lorsque j'accepte que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, alors il peut se dessiner une unité de pensée qui provient de la même communion que nous avons les uns et les autres en Christ.
Si je comprends bien, cela requiert donc de penser en adulte spirituel, avec une dose d'humilité. Nous faisons une nouvelle pause musicale. Paul, tu as souligné un risque concernant les fidèles, et ce risque et que ces derniers ne soient plus en mesure de penser par eux-mêmes et qu'ils se soumettent sans une saine réflexion aux directives d'un leader qui impose ses propres idées sans se prêter au dialogue. Il n'y a donc rien de nouveau, car alors que Pilate était d'avis de relâcher Jésus, l'évangéliste Matthieu nous dit ceci, je cite, « Cependant, les chefs des prêtres et les responsables du peuple persuadèrent la foule de réclamer la libération de Barabbas et l'exécution de Jésus. La foule n'a donc pas pensé librement, elle qui avait acclamé Jésus le jour dit des rameaux. Que dire d'une telle orientation de la pensée ?
Voilà un cas où le peuple est manipulé par les responsables religieux de l'époque. Nous n'avons pas connaissance des arguments que ces chefs religieux ont employés. Mais nous savons qu'ils ont complètement changé la perception que ces gens avaient de Jésus. Alors qu'ils l'acclamaient comme un héros, maintenant ils le huent et le détestent au point de réclamer sa mort. Que s'est-il passé ? Jésus, à plusieurs reprises, s'est opposé à la pensée unique que ces religieux voulaient imposer au peuple. Par exemple, au sein du monde juif de son temps, Jésus introduit une lecture différente de l'observation du sabbat. Je cite ce récit de l'évangile de Matthieu. Il est dit, « Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, les « ils » ce sont les religieux, « est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'est afin de pouvoir l'accuser. Jésus leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Ce récit se trouve dans Matthieu, au chapitre 12, des versets 9 à 14. Jésus, au sein du monde juif auquel il appartient, va proposer une nouvelle approche de la pratique du sabbat. Jésus aurait pu guérir ces malades un autre jour. Pourquoi a-t-il choisi ce jour-là ? Parce qu'il voulait provoquer une réflexion au sein du groupe des pharisiens. L'observation du sabbat en était arrivée à annihiler la foi, la loi supérieure de l'amour du blessé, du malade, du faible. Certes, la loi du respect du sabbat était inscrite dans les 10 commandements. Mais la lecture qu'ils en faisaient était tellement stricte qu'ils en oubliaient la loi de la miséricorde. Le groupe des pharisiens était unanime dans l'interprétation qu'ils faisaient du texte biblique. Jésus, introduisant une nouvelle lecture du texte biblique, devient dangereux pour le groupe. C'est pourquoi ils veulent l'éliminer, le faire périr.
Peut-on transposer cela en prenant un exemple concret dans les assemblées du XXIe siècle ?
On pourrait citer de nombreux exemples, mais je prendrai un exemple un peu humoristique. Supposons que dans une église évangélique, les personnes se recueillent et prient assises sur leurs chaises et qu'un membre se mette spontanément à genoux pour prier. Il peut alors paraître comme suspect. si l'un des gardiens du groupe considère ce comportement comme inacceptable, il va accuser d'orgueil la personne qui a agi d'une manière différente. Il va rassembler autour de lui une large majorité du groupe. Il va vouloir que la personne en question reconnaisse qu'elle a eu tort d'agir ainsi, et si elle ne la reconnaît pas, il va monter le groupe contre cette personne, générant ainsi une attitude de rejet. Je connais bien des frères qui ont été écartés de toute responsabilité parce qu'ils ne disaient pas oui et amen à tout ce que le pasteur voulait imposer.
Et j'en connais aussi plusieurs. De fait, ils sont mis au piquet comme à la maternelle. L'aveugle de naissance, guéri par Jésus, a été, quant à lui, excommunié pour avoir simplement exprimé son point de vue concernant celui qui venait de le guérir.
La pensée unique, lorsqu'elle fonctionne dans un groupe, devient une puissance de manipulation extrêmement pernicieuse. Jésus n'a pas accepté cette pression de la part des religieux. Il a gardé sa liberté de penser.
Respecter la pensée des autres, même si elle est différente de la nôtre, cela n'ouvre-t-il pas la porte à des errements ? N'est-il pas préférable d'être dirigiste et fermer la porte à toute expression divergente ?
C'est ainsi que fonctionnent les mouvements sectaires. Ils imposent une seule ligne de pensée. Il n'y a pas de place pour la critique constructive. L'échange de points de vue différents est prohibé. Dans tous les écrits du Nouveau Testament, les apôtres ont continuellement cherché à voir les croyants entrer dans leur vocation de disciple accompli. La vocation du disciple est de grandir en maturité, en discernement, en responsabilité. Pour cela, il doit développer un sens critique afin qu'il soit en mesure, comme dit l'Écriture, de retenir ce qui est bon et de s'abstenir de ce qui ne l'est pas. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Depuis la Réforme, et plus récemment Vatican II, la lecture de la Bible est recommandée pour tous les croyants. Mais le fait de la lire amène chaque croyant à mûrir dans son discernement et donc à être en mesure de critiquer, sans qu'il y ait de la critique négative, ce qui lui est enseigné par les divers ministères. Le sens critique est voulu par Dieu. Dans Hébreux au chapitre 4 et au verset 12, il est écrit « La parole de Dieu est vivante » et elle est efficace. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le verbe ici employé, elle juge, est écrit en grec kritikos. La parole de Dieu a ce pouvoir de discernement, de connaissance, de jugement. Et si nous croyons en elle, nous devons avec elle garder ce sens critique. Tout croyant est exhorté à exercer ce sens critique afin de ne pas tomber dans les séductions de quelque manipulateur que ce soit. Lorsqu'un prédicateur enseigne, vérifiez que ce qu'il explique est étudié dans son contexte. Si le contexte n'est pas respecté, utilisez votre sens critique sans crainte. Certains pasteurs cherche à étouffer la critique constructive des disciples envers leur message. Or, les disciples ont exercé ce devoir de critique envers Paul et Silas, lorsqu'ils prêchèrent à Bérée. Il nous est dit que les Juifs qui les écoutèrent examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Actes chapitre 17. Verset 11. Ces croyants avaient gardé le sens critique. Ils n'acceptaient pas tout ce qui leur était dit. Ils contrôlaient, vérifiaient, critiquaient, jugeaient le bien fondé ou pas de ce qui leur était enseigné. J'ai trop souvent entendu dans la bouche de certains croyants cette phrase qui m'horripile. C'est le pasteur qui l'a dit. Du moment que le pasteur l'avait dit, même si c'était une énormité, il n'y avait pas à en discuter. Ces croyants se sont laissés dépouiller de leur sens critique, parfois tacitement encouragés par leurs responsables. Le sens critique pour le croyant n'est pas du scepticisme, mais la base d'une foi saine, détachée des fables et des dogmes humains, comme le dit Paul dans Tite, chapitre 1er, versets 13 et 14. Gardez votre sens critique en éveil lorsqu'on vous prêche, je dis cela entre guillemets, des vérités qui vous déresponsabilisent. Vous devez garder à l'esprit que vous êtes responsable de vos choix et de votre destinée. Nous sommes des êtres libres. Gardez votre sens critique lorsqu'on vous donne un exemple biblique pour vous faire accepter une vérité. Cherchez pour voir s'il n'y a pas un contre-exemple dans la Bible. Car tout contre-exemple a pour but de nous ramener à l'équilibre. Le sens critique nous évite de tomber dans le piège des raccourcis ou des généralisations. Aucune situation n'est identique à une autre, et chaque situation nécessite qu'on la prenne avec du recul. Concernant cette problématique de l'ouverture d'esprit et des pistes multiples que Dieu peut utiliser, je vous recommande le livre du pasteur Éric Sellérier, Connexion divine.
Cette recommandation sera le mot de la fin. Puisque recommandé, je précise que l'on peut commander ce livre, Connexion divine, aux éditions Esdras, 11 boulevard Ferdinand Buisson, 11200 Lézignan-Corbière. Merci Paul. Nous attendons déjà ta prochaine visite. Amen.